Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. À la toute fin du mois de janvier, nous sommes allés avec toute l'équipe de Binge Audio faire un tour à Brest au festival Longueur d'onde dont nous sommes partenaires, qui rassemble la plupart des acteurs de l'audio et qui chaque année notamment remet un prix, le prix Petites Ondes, à des créations documentaires indépendantes. Deux projets sont arrivés ex aequo cette année, Kebab Blues de Zoé Perron et Profession Cordis de Franck Després. Et ce dernier nous a un peu retourné le cerveau. C'est une plongée bouleversante dans les réalités d'un boulot méconnu, celui des cordistes donc, qui travaillent en hauteur, sans échafaudage, dans l'industrie notamment, et dont le métier a été plusieurs fois endeuillé par des accidents terrifiants passés totalement inaperçus. On a eu envie de vous livrer tel quel le travail au long cours qu'a fourni Franck Després, qu'on retrouvera à la fin du deuxième épisode. Bienvenue dans Programme B.
Profession cordiste, les gestionnaires premiers de cordée, les intérimaires premiers de corvée. Première partie.
Comme c'est un boulot de bagnard qui demande juste à piocher, pelleter.
Donc souvent, malheureusement, dans les silos, c'est des débutants qu'on envoie faire ça.
Bien, les gars qui tiennent pas, et la sélection naturelle, elle se fait comme ça.
Vraiment, ça faisait comme un brouillard toute cette poussière, on voyait pas grand-chose. Franchement, il était super chaud, et puis on avait plus l'air, quoi.
Ça faisait un petit peu comme un sablier, quoi.
Dans tous les autres postes que j'ai faits, il y a beaucoup plus de sécurité, il y a beaucoup plus de joueurs, surtout.
Vous faites pas, vous êtes pas des bonhommes, vous êtes des tapettes.
Au moment où on allait sortir, je commence, moi, à m'ensevelir.
On commence à crier, tu vois, on entend crier et tout. Quentin, il hurlait à la mort.
La Marne, l'ex-Champagne-Ardenne, le site agro-industriel de Bazancourt abrite la sucrerie de Cristal Union, propriétaire des marques Dadi et Erstein, deuxième groupe sucrier de France. Avec son centre d'excellence de biotechnologie, ses start-up vertes, le site industriel forme l'une des plus grandes bioraffineries au monde et emploie 1200 personnes. Parmi eux, des cordistes, chargés de descendre en rappel dans les énormes silos de sucre ou de drèche du site pour décoller, décolmater la matière récalcitrante sur les parois. En mars 2016, Éric Louis, l'un des cordistes intérimaires de Bazancourt, décrivait son métier dans un court texte brut de décoffrage intitulé « Casser du sucre à la pioche ».
Nous sommes 10 ressemblants, indifférenciés, 10 fantômes. Combinaison blanche, bottes blanches, casque blanc, fondu dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantômes silencieux. Les bruits sont étouffés. Le mec à côté, s'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles transformées, des mots incompréhensibles m'arrivent, mais d'où ? Les sons tournent et courent le long des épais murs de béton. Presque autant que le boulot, c'est s'arracher à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure. Je suis à l'intérieur d'un cylindre de 30 mètres de diamètre sur 54 mètres de hauteur. En plein milieu, une colonne d'environ 4 mètres d'épaisseur qui monte là-haut soutenir le toit. Le tout en béton peint de couleur bleu pâle. La lumière blafarde de deux énormes lampes achève de lisser les velléités de contraste. Au fond de ce cylindre, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres, reste 5000 tonnes de sucre. Il est censé s'écouler par gravité, au gré des besoins du conditionnement. Devrait sagement glisser par les trémies, sorte d'entonnoir moulé dans l'épaisseur du sol, pour être emmené vers son destin de sucre. Mais celui-là, il ne veut pas finir en petits morceaux dans ton café, ou fondu dans une confiture de grand-mère, ou complice de l'impérialisme américain délayé dans du Coca-Cola. Il renacle, s'agrège, colmate, résiste. La force de l'inertie. Heureusement, les responsables de la sucrerie, qui sont des humanistes, ne veulent pas te priver de sucre dans ton café, ne veulent pas empêcher ta grand-mère de confectionner ses confitures, seul lien qui la retient à ce peu de vie qui lui reste à vivre. Alors, ils envoient au fond du silo une poignée de fantômes tout blancs, mater le sucre récalcitrant à coups de pioche et de pelle. D'en haut, par le trou, déjà le spectacle est étonnant. La hauteur équivaut à un immeuble d'une vingtaine d'étages. On distingue mal ce qui nous attend. Du blanc. Se laisse deviner quelques creux, des bosses. Arrivé en bas, c'est simplement surréaliste. Là, les reliefs se matérialisent. Et quel relief ! Devant nous, des montagnes de sucre. Ils s'accumulent davantage contre les parois humides, formant des pentes abruptes. On est écrasé par le volume formidable de ces 5000 tonnes, ébloui par cette blancheur immaculée. Un temps déboussolé par le silence entêtant du lieu. Les cristaux brillent à la lumière pourtant lointaine des deux halogènes. On est au pôle Nord en pleine Champagne.
Depuis, Eric a réécrit un texte au titre tout aussi explicite. On a perdu Quentin. Quentin, c'est son collègue, cordiste également. Quentin Zahraoui Brua. C'était plus tôt. Le 21 juin 2017, il meurt enseveli sous 370 tonnes de drèche dans un silo de Bazancourt, à l'âge de 21 ans. Quentin ne cassait pas du sucre à la pioche, mais de la drèche, ces résidus de céréales qui colmatent et forment d'énormes blocs le long des parois des silos. Quentin ne travaillait pas directement pour Cristal Union, mais pour sa filiale, Cristanol, l'un des leaders de la production de bioéthanol en Europe, un biocarburant obtenu à partir du blé et de la betterave. Le jour de l'accident, Quentin travaillait du poste du matin, Eric de l'après-midi. Ils ne se sont pas croisés. La veille, Quentin avait dit à Eric « Au fait, j'ai lu ton bouquin, trop stylé, il y a des passages qui m'ont bien fait marrer ». Casser du sucre à la pioche venait d'être publié sous forme de brochure, dans une petite maison d'édition, les éditions du commun. Quentin venait de le lire. Ce sont les derniers mots qu'il prononcera à Eric.
Moi, je l'avais connu, Quentin, il y a à peu près, ça faisait à peu près un an qu'il bossait dans le coin. Il n'a pas bossé que dans le coin, il est venu bosser dans le coin. Après, il est reparti bosser un petit peu sur Paris, je crois. Il avait bossé un petit peu en Bretagne, mais la plupart du temps, il avait bossé ici. Ouais. Dernièrement, il dormait au Airbnb avec les gars. Mais quand il est arrivé tout au début, la première fois que je l'ai vu, il dormait dans un foyer de jeunes travailleurs sur Reims. Parce qu'ils connaissaient encore personne. Là, les gars, quand ils vont à Airbnb et compagnie, c'est qu'ils se sont passés le mot, ils y vont à plusieurs et ils arrivent à mutualiser. Lui, quand il est arrivé là, il venait de sa Bretagne, il connaissait personne. Il est arrivé un lundi matin après 6 heures de route. Il savait pas trop comment se dépatouiller. Il a pris cette solution-là, quoi.
Comme la majorité des cordistes envoyés à Bazancourt par ETH, entreprise de travaux en hauteur, basée dans le Pas-de-Calais, Quentin était intérimaire.
Bazancourt, c'était mon 11e jour sur corde. Donc vraiment, ça fait pas beaucoup, beaucoup.
Anthony Pouille, 32 ans, était aussi intérimaire. Appelé en renfort la veille, il travaille pour la première fois à Bazancourt, et pour la toute première fois, dans un silo.
Je crois qu'on m'a téléphoné la veille, il devait être 4h de l'après-midi, quand on m'a dit, ok, pas de problème, bah, t'y vas, tel endroit, telle heure, faut que tu sois là au matin, je crois que c'était pour 5h du mat. Pour question d'avoir un hôtel ou un camping, enfin c'était déjà un peu juste, alors j'avais pris la tente. Et puis j'étais parti comme ça, je suis arrivé là-bas, j'ai posé la tente dans une pâture ou un truc comme ça, et puis voilà quoi. Ah, j'avais dormi, comment dire, un petit peu sur les hauteurs de l'entreprise, il y avait une espèce de petit bois avec des champs et puis un petit morceau d'herbe, je m'étais mis là. Ouais, je m'étais couché, il était je sais pas quelle heure, le temps de faire la route, de monter, de manger. Au matin, tout emballé pour mettre dans la voiture. Ouais, c'était une courte nuit quoi.
Le 21 juin 2017, Anthony est envoyé dans le silo sans le moindre briefing. Il est censé recevoir, comme tout nouvel arrivant, un point accueil sécurité l'après-midi. Il ne l'aura donc jamais.
Quand j'entre là-dedans, bah, je me rends compte, y a un petit rayon de lumière, il y a une petite baladeuse en fait qui permet d'avoir un petit peu de lumière intérieure, on voit pas grand-chose, on est avec nos lampes frontales. Et puis, du coup, on voit pas loin, parce que c'est quand même un peu poussiéreux, puis on voit, ça fait vraiment comme une montagne, quoi. On sent pas grand, quoi. Parce que vraiment, on est à côté de ça, et puis, on doit casser ses mottes, ou même des fois, ça fait carrément un mur, on doit casser tout ça. Et quand on casse un bout, des fois, ça part très lentement, faut vraiment insister, et des fois, on casse à peine un morceau, et tout tombe, tout dégringole. On se demande comment ça se fait que ça tient et comment ça se fait que je me sois en sécurité à côté de ce truc-là qui peut dégringoler sur ma tête quoi. Donc ouais, c'était un petit peu oppressant et puis je me sentais pas super en sécurité, mais bon, comme les autres le faisaient puis qu'ils avaient l'air plutôt cool et puis sereins, je me suis dit c'est l'impression du débutant, de toute façon en travaillant après on n'y pense plus trop quoi.
Donc souvent malheureusement dans les silos c'est des débutants qu'on envoie faire ça.
François Stépien.
Quentin, 21 ans, moi 29, mais débutant dans le milieu, parce que justement c'est pas compliqué techniquement au niveau des cornes, tu vois, c'est pas très sorcier quoi, tu vois, c'est les bases. Puis le boulot, les mecs qui touchent, hein, qui ont un vrai diplôme, tu vois, par exemple, souvent les cordistes sont maçons, ou sont électriciens, ou sont quoi, ils vont pas aller se faire chier, aller dans un silo, enfin tu vois, taper avec une pioche dans des buts de céréales quoi. Alors, faut savoir qu'une formation cordiste...
Avec Anthony, Raphaël et le chef d'équipe Christophe, François fait partie des quatre collègues de Quentin de l'équipe du matin.
Vraiment. À Bazancourt, il y a trois silos. De Dresch, il y a le silo 12, le silo 11 et le 10. Donc, c'est le plus petit silo, en fait. Mais le 11 et le 12, c'est quand même des trucs assez balèzes. Et le 12, ça faisait deux semaines qu'on était dedans. Tu vois, par exemple, on n'arrivait pas à dégager la vis, quoi. Il n'y avait pas de trappe et tout. On chiait et tout, il y avait des falaises et tout, c'était super super chaud quoi. La matière était vachement dure. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu une équipe du matin, notamment donc l'équipe à Eric, qui sont venus nous 11 le matin et eux ils faisaient l'après-midi, tu vois. Ils avaient repris une deuxième équipe pour avancer ce truc-là, tu vois. Et en fait le jour du 21 juin, d'ailleurs le jour où Anthony est arrivé, et on finit de dégager la vis, ça faisait deux semaines qu'on en chiait dedans et tout. En plus c'était la canicule, tu vois, à cette époque-là. On croit même le 21 juin, c'est le jour le plus chaud qu'il y a eu, je crois. Tu vois, c'est une chaleur à crever, même à 8h, c'est déjà chaud. Sachant qu'on commençait à 6h, qu'on finissait à 6h, quoi. On était quand même des bons horaires. Et là, il y a un des mecs des silos. Ah, putain, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle et tout. Il faut que vous retourniez, alors qu'il était 10h30, tu vois, 10h du mat, faut que vous retourniez dans le silo 10, les trappes où la vis, sont colmatées, quoi, tu vois, c'est. Donc, nous, dégoûté, quand on se dit ça, on est reparti pour une semaine de travail à la con, en chier, quoi. C'est tout, on y était, quoi.
Les gars, ils avaient déjà deux matinées dans les pattes, ils avaient déjà leur matinée.
Éric, Louis.
5h du matin dans les pattes. Il pensait finir tranquillement la journée, enfin tranquillement entre guillemets, la journée dans le silo 12. Et en fait, ils les ont basculés dans le silo 10. Donc ça veut dire refaire un équipement pour redescendre dans le silo, analyser ce qui se passe dans le silo pour voir ce qu'il y avait à faire, où est-ce qu'il fallait le faire. Et là, ce qu'ils voulaient, c'était, à mon avis, qu'il n'y ait pas de rupture de production, donc simplement un intérêt productif. On intervient normalement qu'en silo, quand la matière s'est déjà suffisamment écoulée par les trappes, nous on vient pour décolmater ce qui ne veut pas couler, quoi. Et là, a priori, il était plus rempli de manière anormale pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Et donc on ne voyait pas du tout les trappes, on ne voyait pas du tout où la matière s'est coulée ou quoi que ce soit. Donc ce qui fait que ça a apporté un contexte de danger. Et du fait, encore une fois, de l'obscurité, de la poussière et de la fatigue, tout ça conjugué, ça fait que bah, les gars, ils voyaient pas trop où ils mettaient les pieds, quoi.
Ça faisait un petit peu comme un sablier, quoi. Donc, mettons qu'il faisait une vingtaine de mètres de haut, je dirais. Il était bien rempli facilement aux deux tiers. Et du coup, impossible de rentrer par le bas ou à mi-hauteur, en fait. On devait rentrer par la toiture. Il y a une petite trappe exprès. On est rentré par là. Vraiment, ça faisait comme un brouillard, toute cette poussière. On voyait pas grand-chose.
Pour moi, il l'avait pas purgé avant. C'est-à-dire qu'avant de faire rentrer des gars, il faut quand même qu'il se voulait trappe en grand, enlever le mou, quoi, on va dire, tu vois, avant de venir faire taffer des gars dedans, quoi. Moi, comparé aux autres que j'ai eu l'occasion de voir en un mois, donc j'ai pas non plus une expérience de fou, c'était dangereux. Voilà, c'est clair et net, quoi.
Vu le peu de temps qu'il reste avant la pause, il s'agit juste d'installer les cordes pour l'équipe d'après-midi. Raphaël et François se portent volontaires pour descendre en premier. C'est une formalité, a priori.
En fait, on a avec nous un appareil qui s'appelle l'explosimètre qui calcule l'atmosphère ambiante dans un silo. Et là, l'appareil, il arrêtait pas de biper, quoi, bip. Donc, Toff, le chef, les gars remontés, donc on est remonté en speed, tu vois. C'est vrai qu'on en pouvait plus, quoi. Franchement, il fait super chaud. Et puis, on avait plus d'air, quoi. On sait pas si c'est du CO2 ou quoi, mais saturation de poussière, quoi. Le machin, il sonnait, quoi. C'est un appareil, quand même, qui est censé vérifier l'air, quoi. Donc, s'il sonne, c'est qu'il y a un problème.
Raphaël et François remontent en urgence, en laissant les cordes en vrac, comme le veut la procédure. Le silo est aéré une bonne demi-heure, il reste un quart d'heure de travail, un second binôme doit descendre, juste histoire d'eux.
Du coup, comme c'était Raphaël et puis François qui étaient descendus en premier, moi j'avais dit au chef d'équipe, bah ce coup-ci c'est mon tour, j'y vais, pas de problème. Enfin, même que je débute, moi je veux pas que ça soit que les autres qui s'épuisent. Moi j'étais prêt à y aller, donc j'ai un premier collègue qui descend, donc c'était Quentin. Je le suis derrière.
Anthony sera le seul témoin direct des derniers instants de Quentin.
Quentin remarque en fait que la corde qui a été posée par mes deux autres collègues et qui ont dû sortir en quatrième vitesse. Il voit que cette corde a fini par arriver vers le milieu et à se faire aspirer dans la matière. Du coup, lui, il voit ça, il essaye de tirer dessus, il n'y arrive pas, il se détache, il descend le long de cette espèce de cône en suivant la corde, et puis il commence à s'enfoncer à peu près jusqu'au niveau des mollets dans la matière, et puis il dit « je m'enlise ». Moi j'essaye de tirer sur la corde, évidemment ça marche pas pour essayer de le tirer. J'ai compris que trop tard, il était plus attaché à rien du tout. Et comme la corde s'était fait aspirer donc au milieu du cône et que lui était en train de tirer dessus, il était à l'endroit qu'il fallait pas, quoi. Il s'est fait aspirer, donc vraiment c'est pas quelque chose qui lui tombait sur la tête, qui l'a enseveli de par le haut. En fait c'est plutôt le bas qui s'enlevait comme si t'étais dans des sables mouvants, et du coup ça, tout doucement, la matière sur le côté partait comme ça au milieu, et puis lui était là et bah, il se faisait entraîner, quoi.
Ça criait, tu vois, on entend crier et tout, voilà, non c'est Quentin et tout, puis là j'entends hurler, enfin là j'entends la voix de Quentin. Quentin, il hurlait à la mort, enfin tu vois. Et je suis descendu du coup en premier. Raph a suivi après. Et donc au moment où je mettais le harnais, je me mettais sur l'encendeur, le son, la voix s'était arrêtée, hein. Vraiment, il s'était fait prendre. Et quand je suis descendu, j'ai gueulé, Quentin, t'es où, machin. J'ai éclairé avec la frontale. Il y avait Anthony qui était juste en bas, mais lui, il était dans son fractionnement. C'est un petit passage à faire, un peu technique. Donc lui, il venait de descendre aussi, quoi. J'ai dit, c'était au bout de quelques minutes, quoi.
Je suis arrivé, le temps que j'arrive à hauteur de Quentin, il avait déjà disparu. Donc il y avait sa lampe frontale allumée, tout ça. La dernière fois que je l'ai vu, en fait, il y avait les mains en l'air, et puis ça passait, et puis en quelques secondes, plus de Quentin.
Là, il y a Raphaël et François qui sont rentrés dans le silo pour donner un coup de main à Anthony pour essayer d'aller le dégager, pour aller pelleter. Mais comme la matière est super fluide, les pentes sont aiguës, plus ils ont pelleté, plus ça, Au moment où ils pelletaient, ça, la matière descendait, donc ils ont pas réussi à creuser, quoi. C'est comme du sable super fin qu'on essaie de creuser, ça recoule aussitôt. Il y a pas moyen de faire un trou pour aller dégager les gars, quoi.
Et du coup, on a été pelleté à l'endroit où c'est qu'on pensait que Quentin était, tu vois. On pelletait, on tirait sous la corde parce qu'il y avait la corde qui était à peu près à cet endroit-là. C'est Raph qui tirait et tout, puis il a ressorti la corde. Au final, c'est une poupée de corde, tu vois. Donc, Quentin était pas au bout, tu vois. Donc voilà, tout, on a continué à pelleter, puis là on s'est pris quand même une sorte de, je sais pas comment dire, une avalanche sur nous, tu vois, parce que la matière était très molle. Du coup, ça s'est mis à tomber sur nous, et Anthony s'est fait prendre au genou, tu vois. Nous, ça va, on pataugeait, mais ça allait, quoi, tu vois. C'est bon, on se faisait pas ensevelir, mais bon, c'était quand même chaud. Et Anthony s'est fait prendre au genou, encore des corps tendus, hein. C'est ça qu'il faut bien préciser, parce que justement ils ont retrouvé Quentin pas attaché, mais Anthony, ça a fait en 10 secondes, franchement, il était là, à côté de moi, là, Anthony, ça a fait ça.
Au moment où on allait sortir, on allait commencer à remonter, je commence, moi, à m'en souvenir. Donc, à peu près jusqu'au mollet, bah, pareil, comme Quentin. Alors, j'arrive à me sortir, donc je m'appuie un peu, j'arrive à sortir une jambe. Pas de problème. 30 secondes plus tard, je me renlise une deuxième fois, pareil jusqu'au niveau des cuisses. Et puis, dans la foulée, une troisième fois, je me fais ensevelir parce qu'en fait, comme on creusait, les côtés qui étaient en hauteur, en fait, s'effondraient sur nous et coulaient sur nous. Et comme moi, j'étais, pareil comme Quentin, pile au niveau où la corde avait disparu pour pouvoir creuser à l'endroit où il avait disparu, j'étais pas au bon endroit, quoi. Enfin, si on peut dire ça.
L'article R43-23-89 du Code du travail précise que le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être porté immédiatement aux travailleurs en cas d'urgence. Or, dans les silos de Bazancourt, il n'y a ni treuil, ni aucun autre moyen d'évacuer une personne en cas de danger. Il a donc fallu bricoler un système D.
Pour m'aider à sortir, de l'extérieur, en fait, ils avaient commencé à préparer un système de mouflage, donc des poulies, genre de choses, pour si on retrouvait Quentin, pour l'accrocher et puis le hisser. En fait, ça m'a servi à moi. Ils nous ont envoyé le mousqueton, ils l'ont accroché derrière. Raph était derrière moi, donc il me tirait par mes bretelles. Donc, en me tirant par mes bretelles, moi en tirant sur mes deux bras, parce que dans chaque main, j'avais une corde, j'étais attaché d'un côté. Et puis il y avait la corde où étaient attachés François et puis Raph. Plus remuer les jambes, j'ai commencé à sortir un petit peu. Et une fois que j'ai eu dégagé le haut des cuisses, en fait, d'un seul coup, j'ai sauté comme un bouchon de champagne.
Raphaël et François, eux, ils continuaient de creuser jusqu'au moment où, de toute façon, quand ils ont vu qu'ils étaient... De toute façon, ils ont été assez vite à bout de force, dans la mesure où, depuis le matin, dans la chaleur, ils pelletaient et ils piochaient. Sachant que Quentin était enseveli depuis de longues minutes, ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient plus rien faire, et que non seulement ils ne pouvaient plus rien faire, mais en plus ils étaient en danger. Quand ils ont vu qu'Anthony s'est retrouvé enseveli jusqu'à la poitrine, et qu'il a failli partir aussi, ils ont vu qu'il se mettait en danger, donc là c'était plus la peine de continuer de pelleter, quoi.
On était boulant, quoi. Moi, mes muscles, ils étaient... Enfin, j'étais rouge, en nage, et vraiment, comme si je faisais de la fièvre forte, les muscles vraiment boulants, quoi.
J'avais peur de tomber sur le corps, en fait. Vraiment, j'avais peur. Et en fait, bon, c'est ce qu'on voulait faire, hein. On voulait sortir, mais en pelletant, j'avais peur, quoi, de taper sur le casque et puis, d'arriver sur lui, quoi.
Enfin, très dur, la remontée, parce que, plus de force, puis surtout de se dire... on arrête là les recherches.
J'étais fortement de l'issue de cet accident, mais on veut toujours y croire, quoi. On se dit que tant que quelqu'un a disparu et qu'on l'a pas retrouvé, il est pas mort. Et c'est quand on a vu passer la camionnette d'identification criminelle que Jefferson, qui est pompier volontaire, nous a dit là c'est sûr qu'il y a un mort, l'identification criminelle, ça veut dire qu'il est mort. Et après, ça nous a été confirmé par un responsable.
Depuis la mort de Quentin, Eric, Raphaël, Anthony et François n'ont pas réussi à retravailler, ou à peine, soit parce qu'ils ne peuvent plus,
un ou deux jours après, en fait, j'ai commencé à voir des bleus sortir d'un peu partout. Et je suis allé voir mon toubi, mais en fait, je me suis fait une déchirure musculaire au niveau du pec. Une tendinite à chaque avant-bras. Et puis, je suis toujours en arrêt, d'ailleurs. Donc, ça fait 6 mois... J'ai 6 mois et demi d'arrêt, pour l'instant.
Soit parce qu'ils n'y parviennent plus.
Je pense beaucoup au drame, en fait, au cri. Et puis, des fois, des flashbacks, en fait. Voilà, tous les jours, il y a ça qui est un peu en tête, quoi. Enfin, tous les jours, j'y pense au nombre de fois, quoi, c'est clair.
Ma tête, je ressasse quand même tout ça, à peu près tous les jours.
En tirant de toutes ses forces pour empêcher Anthony de s'enliser dans la drèche, Raphaël s'est abîmé les disques avertébraux. Sa discopathie dégénérative lui fait un mal de chien au niveau des lombaires. Il touche actuellement le chômage.
Si souvent, j'y pense, je me dis, c'est quand même, on a eu aussi la mort de près, tu vois.
Quand nous avons rencontré François, il était en train de passer un certificat de spécialisation en élagage. Il se disait très motivé, mais il abandonnera au bout de 3 mois. La pression pour le rendement, la dangerosité du boulot, tout cela a remué le couteau dans la plaie.
L'enterrement, donc on est parti voir sa famille en Bretagne, donc on est arrivé la veille au soir, puis ils nous ont accueillis à bras ouverts, on a mangé avec eux. T'avais l'impression qu'il était encore là, quoi, Quentin, quoi. Tu vois, ils montraient des photos, bah tiens, ça c'est Quentin quand il était jeune, ceci, cela, puis ils se remémoraient tous des souvenirs, mais c'était frais, quoi, tu vois. Il avait 21 ans, et puis il laisse deux petits frères, donc il y en a un qui est en première et l'autre qui est en quatrième.
C'était un moment vachement dur parce que t'enterres un jeune de 21 ans. Qui est mort dans des conditions terribles, et qui est mort au boulot. Tu te dis que c'est pas dû au hasard, que c'est un travail, c'est jamais dû au hasard. C'est un truc qui aurait jamais dû arriver. Et tu te retrouves là, dans le cimetière, avec une bonne, grosse centaine de personnes qui suivaient le cercueil, qui étaient tous des proches de Quentin, quoi. Et ça, c'est super cool.
Je contacte une boîte de cordistes concurrente de TH.
Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Qui a été sollicité à plusieurs reprises par Cristanol et Cristal Union pour des missions dans les silos de Bazancourt.
Je voulais savoir si votre société travaillait avec Cristanol ou Cristal Union.
Non, parce qu'ils ont des procédures de sécurité qui ne nous conviennent pas et comme on ne tient pas forcément à avoir un accident, on préfère pour l'instant ne pas travailler avec eux.
Quel point précis vous remettez en cause dans leur fonctionnement ?
En fait, nous, quand on travaille sur un silo ou n'importe quoi, nos techniciens ont leur propre cadenas de consignation. Ils gardent la clé avec eux. Chez eux, on ne peut pas faire comme ça. C'est-à-dire que c'est eux qui consignent et eux qui déconsignent. Nous, c'est non. La consignation, c'est ce qui permet de mettre un cadenas à l'entrée du site dans lequel vous intervenez, qui fait que personne d'autre que vous ne peut... il y a personne dans le silo, c'est-à-dire que nous on met un cadenas, chaque technicien a son propre cadenas.
Oui.
Tant qu'ils sont dedans, le cadenas est posé, personne peut y accéder, personne peut ouvrir les vannes, personne peut. Voilà.
D'accord. C'est un système qui permet d'empêcher l'ouverture des fameuses trappes.
Tout à fait. Nous, je suis désolée, on intervient quelque part, on consigne. Nous, c'est pas quelqu'un d'autre qui consigne. Tant qu'il y a un technicien dans le silo, c'est consigné, point. C'est comme ça, c'est tout. On part pas par eux. Nous, il n'est pas question qu'on mette en jeu la vie de nos techniciens. C'est juste pas possible.
Au centre de ce drame, il y aurait une erreur humaine. Humaine, mais surtout prévisible, évitable. Si l'accent avait été davantage mis sur la communication et la prévention à la sécurité, et si les cordistes avaient pu eux-mêmes verrouiller les trappes de vidange.
Si Quentin est parti, s'est fait aspirer par la matière, c'est qu'il y a une trappe qui s'est ouverte, il y a forcément quelqu'un qui a piloté la trappe, ça c'est clair. En salle de contrôle, il y a quelqu'un qui a piloté la trappe. Qui l'a piloté, pourquoi, ça je peux pas le dire. Mais je garde cette conviction qu'une trappe a été ouverte au moment où Quentin était sur la matière, au niveau de cette trappe-là.
Dans le bas du silo, en fait, il y a des trappes de vidange, en fait, qui, comme je le disais, et que ça part sur les tapis roulants, puis après ça va dans d'autres parties de l'usine. Ce tapis roulant et ces trappes, en fait, peuvent s'arrêter, peuvent se fermer, et elles étaient en fonction. Donc autant la vie sans fin, peut-être elle avait été consignée comme dans le premier silo, mais les trappes de vidange, elles étaient ouvertes. C'est pour ça, en fait, que de la matière s'écoulait. C'est pour ça que Quentin s'est fait aspirer la corne et puis moi aussi, quoi. C'est quelqu'un de l'usine.
Anthony certifie avoir entendu un employé de Cristanol demander en criant de fermer les trappes.
Qui a dit, je sais pas, son toki ou j'en sais rien, enfin ils ont dit, j'ai entendu fermer les trappes. Ils ont dit de fermer les trappes et à ce moment-là, j'en avais jusque-là, ça s'est bloqué. J'ai pas, sauf si on bougeait un petit peu, à ce moment-là, il y avait du grain qui descendait, mais sinon, je m'enfonçais plus, quoi.
Je tombe sur un mec avec son casque, marqué directeur général, tu vois. Et puis, tu vois, même pas ça va, quoi. Tu vois, il voit. Bah,
exécution de travaux sans plan de prévention des risques préalables conformes.
Bah, malheureusement.
Mise à disposition d'équipements ne préservant pas la sécurité du travailleur. Emploi de travailleurs sans dispense d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Telles sont les raisons invoquées par l'inspection du travail pour dresser un procès verbal à l'encontre de Cristanol et d'ETH, transmis au procureur de Reims en novembre 2017.
Et il me regarde, il me fait « Il est encordé ».
Et à peine 5 minutes après l'accident, ce ne sont pas ces lacunes qui semblent étonner le directeur général de Cristanol.
Juste ça. J'ai dû répondre « Ouais, je sais pas, puis quoi, je me suis barré ».
C'était le directeur général?
Ouais, directeur général de Cristanol.
De Cristanol?
Ouais, ouais.
Et la seule chose qui...
Mais il m'a juste regardé, il m'a dit « Il est encordé ». Non, il m'a pas dit ça va, il m'a dit « Il est encordé ». En fait, sur le coup, j'ai pas réalisé. Ouais, parce que nous on sortait du bordel et tout. Et c'est 2-3 jours après, j'étais en voiture et tout, puis j'ai repensé à ça, je fais putain, mais l'enfoiré quoi, tu vois. Enfin, c'est pas humain quoi. Il était déjà sur sa défense quoi, sur sa défensive, à savoir s'il était encordé, donc ils sont très contents qu'il était pas encordé, tu vois.
Si Quentin s'est vraisemblablement désencordé, Daniel Larigaudère, le directeur de Cristanol, qui a été remplacé au moins à 2 reprises entre temps, avait-il pour sa part appliqué les méthodes renommées qui ont valu à son entreprise un trophée consacrant ses efforts pour la sécurité? Le 19 juin 2017, soit 2 jours avant la mort de Quentin, dans un article intitulé « 261 jours sans accident chez Cristanol, la Bazancourt », voici ce que déclarait le directeur de la distillerie au quotidien L'Union et l'Ardennais. L'objectif ultime est toujours le zéro accident. On doit agir sur nos comportements les plus anodins, prendre le temps de faire les choses bien au lieu parfois de vouloir gagner du temps et prendre des risques.
On se trouve actuellement sur le site de Bazancourt.
Olivier Debohan.
Bazancourt transforme plus de 2 millions de tonnes de betteraves.
Président de Cristal Union.
Une partie vers le sucre, mais également une partie vers l'alcool et l'éthanol, sachant qu'il faut 1 tonne de betteraves pour faire 1 hectolitre d'alcool ou d'éthanol.
Chaîne YouTube de la coopération agricole, 5 février 2014.
L'agriculture en général a toujours été à l'écoute de la société. Aujourd'hui, on nous dit de produire différemment, on produit différemment. Ça ne nous pose aucun problème. Le tout, c'est qu'on soit en phase et qu'on sache se parler et qu'on sache communiquer ensemble.
Bah chez Cristanol, tout de suite après l'accident, ça a été le lockout total. Ça, on l'a bien vu parce qu'on n'a pas eu d'information. Et comme c'est une grosse société, il y a des gens de l'intérieur qui m'ont dit, quand c'est comme ça, il y a une cellule de crise et il y a un lockout total qui est mis en place de non-communication sur quoi que ce soit qui est relié à l'accident. Donc il n'y a pas moyen de savoir quoi que ce soit. Le patron d'ETH est arrivé quelques heures après, étant donné que...
Du côté d'ETH, on feint l'étonnement. La réaction de Julien Cellier, le patron, sur les lieux de l'accident encore chaud, n'est pas prête d'être effacée de la mémoire des cordistes.
T'as parlé de sa réaction, j'ai pas non plus vu spécialement de compassion. Par contre, il a eu une réaction, il a eu une parole, et il nous a dit « Mais pourquoi vous n'avez pas exercé votre droit de retrait? Pourquoi vous êtes rentré dans le silo de cette chaleur-là » Alors alors que ça faisait 2 jours qu'on était à l'intérieur, alors qu'il y a des dizaines de cordistes qui font ça à longueur d'année, à longueur d'été dans les silos qui sont surchauffés. Tant qu'il n'y a pas d'accident, tant qu'il n'y a pas de problème, ça ne pose pas question, quoi. Et là, parce qu'il y a un accident grave, forcément, puisqu'il y a eu un mort, là on nous dit, bah, les gars, vous auriez dû exercer vos droits de retrait, vous auriez dû nous dire qu'il faisait trop chaud pour aller bosser en silo.
Allô, bonjour, je suis bien sur le portable.
Oui.
Je travaille sur le milieu des cordistes et les accidents qui ont lieu à Bazancourt. Je me permets de vous appeler parce que je cherche à avoir des gens qui ont travaillé ou qui travaillent encore à ETH pour savoir un petit peu comment ça se passait dans cette entreprise, en fait.
Oula.
À peu près.
Déjà, je suis parti au moment de l'accident. Ça faisait 3 mois peut-être que je passais pour eux.
J'imagine à cause de l'accident, du coup.
Ah oui, du coup, oui. Quand on voit le patron qui réagit comme ça, enfin. Mais en gros, il voulait quand même qu'on continue de bosser pour lui, en fait, pour rester dans la société. Enfin, moi, je trouve ça complètement inadmissible de me parler de boulot, de l'avenir du taf le jour même de l'accident, quoi. La seule chose qu'il pense, c'est sa boîte, sa thune, et. Je sais même pas, elle tourne encore, ça tourne encore.
Ouais, bah, j'ai eu au téléphone ce. Qui me dit que depuis ils ont pris quelques mesures de précaution, comme par exemple mettre toujours un titulaire pour un intérimaire et compagnie, quoi. Donc ils ont pris quelques mesures de précaution, quoi.
Ouf, enfin, c'est normalement basse, quoi. Enfin, je sais pas si pour eux c'est prendre des précautions. Bien,
hein. Oui, c'était les mesures de base, oui.
Et c'est, je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de boîtes après, et c'est comme ça partout, c'est normal mettre des intérimaires, quoi.
Est-ce que vous avez déjà retrouvé ce genre de conditions de travail ou pas du tout?
Non. Non, non, ETH, c'est vraiment. C'est la plaie des boîtes de corde, ETH. C'est vraiment les pires. Tous les autres, ils ont quand même. Ils savent quand même qu'ils ont la vie de mec entre les mains. Du coup, moi, j'ai vu que dans toutes les autres boîtes que j'ai faites, surtout dans le TP où. Voilà. C'est pas du tout le même genre de travail que dans les silos et tout. Et bah, il y a beaucoup plus de sécurité, il y a beaucoup plus d'humains surtout. Mais déjà, dès que je suis arrivé et qu'on m'a dit tu vas bosser en dessous de la matière, je trouvais déjà ça un petit peu bizarre.
En dessous de la matière?
Bah oui. Bon, au début, je croyais qu'ils rigolaient, je leur disais bah non, on commence d'en haut, enfin, à la base quoi. Et puis bah non. Bon. Non, on avait de la matière tout autour de nous qui était bien plus haute. On tapait des blocs à la base, alors qu'il y avait de la matière à 3 à 4 mètres au-dessus de nous. Et nous, on se rendait compte des fois que ça glissait tout doucement, en fait. Exactement comme ce qui s'est passé pour l'accident, quoi. Sauf que c'était à une moins grande échelle.
Comme c'est un boulot de bagnard qui ne demande pas de qualification, qui demande juste à piocher, pelleter.
Éric Louis a travaillé 2 ans et demi pour ETH.
Une technique de corde.
2 ans et demi qu'il a passé en grande partie dans les silos et toutes sortes d'espaces confinés.
Mais on les envoie en priorité sur ces chantiers-là. Tous les gars qui arrivent chez ETH, les premières missions qu'on leur donne à faire, à moins qu'ils aient une qualification autre. Qui leur permet de faire autre chose, c'est les silos, on les envoie dans les silos. Et après, on voit bien les gars qui tiennent, qui tiennent pas, et la sélection naturelle se fait comme ça. Donc, je rentrais pas souvent à l'entrepôt, mais de temps en temps, quand je passais à l'entrepôt et qu'il y a des gars qui se plaignaient de certaines conditions de travail, bah, en gros, on leur disait « Ouais, mais nous, on l'a fait avant vous, si vous le faites pas, vous êtes pas des bonhommes, vous êtes des tapettes. Voilà ce qui était répondu, quoi. Quand les gars, entre guillemets, se plaignaient. Même pas sans revendiquer, simplement pour dénoncer, enfin décrire des conditions de travail, voilà ce qui était répondu, quoi, en gros.
Si t'es pas content que tu veux pas faire le boulot, ben c'est simple, on me répondait, t'as qu'à ouvrir ta boîte.
Jefferson.
T'as qu'à ouvrir ta boîte et puis tu verras bien.
Cordiste pendant 1 an à ETH.
Je disais ça. Dieu va travailler lundi parce que tu dis que les conditions de travail te suffisent pas, mais t'as qu'à ouvrir ta boîte et tu verras bien. On me répondait ça.
Qui c'est qui vous répondait ça?
Le directeur et le sous-directeur. Vous n'avez pas de matériel? Vous n'avez pas de compétences? Ben, merci, au revoir. Demain, je ne travaille plus pour nous.
Dans l'équipe de Quentin, Les cinq membres étaient au mieux titulaires du niveau le plus bas des certifications de qualification professionnelle, le CQP1. Les plus expérimentés avaient un an d'expérience dans les pattes, grand maximum. Le chef d'équipe, lui, n'avait pas le moindre diplôme de cordiste. Mais cela ne dérangeait pas ETH d'envoyer dans les silos de Bazancourt des débutants à peine formés et...
Beaucoup d'intérimaires, c'est-à-dire que le jour où moi je suis arrivé sur le site, l'équipe d'après-midi, il n'y avait que des intérimaires. Le lundi, mardi, il n'y avait que des intérimaires. Il n'y avait pas d'embauchés qui bossaient spécialement sur le site. Alors, le matin, ils étaient 6 cordistes et nous, l'après-midi, on était 5 cordistes. Bah, sur les 11, il devait y avoir un embauché, tout le reste c'était des intérimaires.
Là, on te dit, t'inquiète, c'est tranquille, tu au final, tu charbonnes pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures.
Jefferson, de l'équipe d'après-midi, l'été, intérimaire. Enfin, pas tout à fait.
Non, j'étais intérimaire sous contrat. J'étais sous contrat quand ça les intéressait par rapport à mes capacités de couvreur.
À la base, il avait été embauché en tant que cordiste, artisan, couvreur.
Non, c'était pas de couverture. Là, j'étais simple intérimaire comme campagne. Quand il fallait que quelqu'un me qualifie pour avoir un chantier, là, à ce moment-là, on patiente cette idée en me promettant un CDI. Ça n'a jamais été le cas.
En un an, il dit avoir dépensé, en plus du coût de la formation, 1350 euros de matériel non fourni par ETH pour pouvoir travailler. Et s'il a quitté ETH, peu de temps après l'accident de Quentin, c'est à cause du...
manquement de sécurité, obligé d'utiliser ses affaires personnelles qui ne sont même pas contrôlées. Parce que sachez que, bien avant l'accident de Quentin, il n'y avait aucune personne chez ETH qui avait une corde qui était correcte. Tout le monde disait, t'embête pas, ça va aller, t'inquiète pas, c'est bon, je vais vérifier. Et au final, on se retrouvait avec une corde de 50 mètres, avec 5 ou 6 tonges.
5 ou 6 tonges, c'est quoi?
C'est des coups qu'il y a dans la corde, en fait.
Jefferson fait partie d'une vague de cordistes qui ont quitté ETH pour rejoindre une entreprise nordiste concurrente dont nous tairons le nom. Ils sont 3 à avoir rejoint cette boîte de cordes après la mort de Quentin. Et ils seraient 7 à 8 à l'avoir rejoint dans l'année qui a précédé l'accident. Et il n'y aurait pas que les cordistes, déçus, dégoûtés d'ETH, qui auraient fait ce choix. Des clients également. Le patron, qui a refusé de témoigner publiquement, nous indique que, rien que pour l'année 2016, il a récupéré 10 sites qui appartenaient à ETH. Oui, bonjour madame, je suis journaliste et je fais un travail sur le métier de cordiste et je m'intéresse notamment aux accidents qui ont lieu à Bazancourt. J'aurais souhaité parler à monsieur Julien Cellier, s'il vous plaît.
Je vais voir s'il est disponible. Bonne santé.
Merci.
Allô ?
Oui ?
Oui, il n'est pas disponible.
Quand est-ce que je peux rappeler pour l'avoir ?
Je pense que ça n'intéresse pas, en fait, d'en discuter.
Ah, donc c'est pas qu'il n'est pas disponible ?
Voilà. Bah, là, il n'est pas disponible. Là, je vous mens pas, il n'est pas disponible. Mais je pense vraiment que, de toute façon, il voudra en parler. Donc, du coup...
Pour quelle raison ? Est-ce qu'on peut savoir ?
Ben, parce qu'il n'en a pas envie, tout simplement. Ouais. Je peux pas vous dire, hein, je suis pas à sa place, donc...
C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir directement, vous voyez.
Bah écoutez, faites des recherches, appelez-le sur son portable, mais moi je peux pas vous le passer s'il veut pas vous prendre.
D'accord.
Voilà.
D'accord, je veux juste que vous lui passez le message suivant, c'est-à-dire que ça fait un moment que j'essaye de l'avoir, et j'ai pas mal d'éléments... notamment données par d'anciens cordistes qui sont passés par ETH qui mettent en cause le fonctionnement et la politique de ETH. Donc je voulais absolument avoir son point de vue pour pouvoir confronter ces éléments-là directement avec lui. Donc voilà, je voulais vous dire, okay, de lui faire passer le message.
Il n'y a pas de problème.
Je vous remercie, madame. Merci
bonne
beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Il y a la pression de l'entreprise utilisatrice, ETH, sur ses ouvriers, et il y a la pression du donneur d'ordre, Christin Noll, sur l'entreprise utilisatrice. Dans les 2 semaines précédant la mort de Quentin, les cordistes voient la concurrence rôder à Bazancourt. et entendent leur supérieur dire que TH est clairement menacé de perdre le marché. Mais comment cela se traduit-il sur le terrain ?
Et Christiane a demandé à ce qu'on bascule sur deux équipes pour aller plus vite, quoi. Pour sortir plus de matière, pour faire de la production. Donc c'est à partir du lundi matin qu'ils ont demandé à ETH de gonfler les effectifs et de passer sur deux équipes. Sachant qu'ils ont fait cette demande-là la fin de semaine précédente, en mettant la pression à ETH, en disant que si lundi il n'y avait pas 12 bonhommes au lieu de 6 sur le site, ben, il est dégagé, quoi. Il ferait venir quelqu'un d'autre.
Un des responsables des silos qui s'occupe de ces silos-là, qui arrive avec un jeune, tu vois, genre mon âge et tout, enfin nos âges, tu vois,
avec un petit calepin et tout, tu vois. Comprendre les pauses forcées lorsque les cordistes doivent attendre que la vis s'enfin, l'énorme bras tournant dans le fond du silo fasse son travail. Les pauses, donc, doivent être comblées. Un jeune homme, calepin à la main, est aperçu près des silos.
Et en fait, ce mec-là, c'était pas un stagiaire comme nous on pensait, ça faisait vraiment ça, quoi. Et en fait, c'était l'un des responsables des finances de Chris Hanel. Voilà, qui était venu en fait nous espionner, tu vois, c'est vraiment... Il avait fait un rapport, tu vois, sauf que le mec a jamais mis un pied dans un silo de sa vie, et puis qu'il sait pas ce que c'est que... Bon, après, chacun a son taf, hein, mais il sait certainement pas ce que c'est que le travail que l'on faisait, quoi, tu vois. Sauf qu'il est venu cet après-midi-là, nous a vu une après-midi où c'est qu'on a travaillé un quart d'heure, après on a été une heure, bah pas en pause, mais où c'est qu'une heure, où c'est que le silo tourne. Ça, c'est pas notre faute, c'est le boulot qui est comme ça, tu vois. Et il s'est dit, les cordistes, en fait, on les paye à rien faire, voilà. C'est ce qui a été dit.
Autre nouveauté, Christanol refuse de laisser partir les cordistes plus tôt le vendredi. Certains, qui ont de la route, parfois des centaines de kilomètres pour regagner leur domicile, trouvent une technique.
Les semaines précédentes, ils bossaient 48 heures par semaine pour justement arriver à la limite des heures supplémentaires légales à faire et qu'on leur dise, partez le vendredi midi, les 48 heures étaient faites, ils pouvaient partir le vendredi midi parce qu'ils avaient fait 48 heures de boulot, quoi.
C'est la semaine d'avant l'accident, on était en train de bosser dans le fameux silo 12, justement. Le silo que je t'ai dit qu'on a mis 2 semaines à décolmater avant qu'ils nous envoient au 10 au dernier moment, tu vois. Donc là, c'était des falaises comme ça et tout, un marteau piqueur et tout, carrément, dans le... enfin bref, un truc de fou, quoi. Et là, t'as deux gars qui arrivent et en fait, il se trouve que c'était l'un des inventeurs du planétaire. Donc le planétaire, la vis sans fin, qui ramène la matière dans les trappes, tu vois. C'était l'un des gars qui vend en fait cette vis. Peut-être pas l'inventeur, mais l'un des vendeurs de cette vis-là, qui avait dû la vendre à Christanol il y a je sais pas combien d'années, tu vois. À la base, elle servait pour du blé, je crois. Et il nous regardait bosser, il hallucinait, quoi. Putain, mais je comprends pas, les gars qui... Il y avait Raph qui était là sur la falaise et tout, avec le marteau piqueur et tout, il me dit, mais il comprenait pas, le gars.
Il comprenait pas quoi?
Bah, qu'on envoyait des gars faire ce taf-là, alors qu'il y a une vis qui est censée le faire.
C'est vrai, j'y vais quand je veux. Une corde est coincée dans la masse de granulés. Quentin tire, hale, rien n'y fait. Il fait noir, il fait chaud, il est fatigué. Le masque à cartouche anti-poussière rend la respiration difficile. Quentin s'exaspère. Dans 20 minutes, il a fini sa journée. Pour se donner plus de liberté de mouvement, il détache alors la corde qui l'entrave. Au moment où il effectue ce geste, qui prend une seconde, combien pèse l'harassement induit par les 48 heures de travail hebdomadaires de ces dernières semaines? Combien pèse la chaleur étouffante? Combien pèse l'abrutissement de cette tâche répétitive, débilitante, décérébrante? Combien pèse le désagrément d'être entravé, piocher, pelleter, piocher, pelleter? Combien pèse l'imminence de la libération? Combien pèse l'atmosphère hostile de ce silo obscur et poussiéreux à l'extrême? Combien pèse la certitude que la matière est stable? Combien pèse l'improbabilité que quelqu'un pilote l'ouverture de la trappe à ce moment précis? Ces questions, il ne se les pose certainement pas. Trop occupé à jeter ses dernières forces afin de retirer cette foutue corde coincée. C'est alors que la matière s'écoule sous ses pieds, l'entraînant vers le fond. Tout va très vite. Il essaye alors de se reconnecter à la corde, sans y parvenir. La précipitation, la fébrilité, le manque de visibilité, la panique. Anthony lance l'alerte à la vigie de faction là-haut, au trou d'accès. Il rejoint Quentin afin de lui porter secours. Sans hésiter, Raphaël et François entrent dans le silo.
Tous les trois, pendant de longues minutes, obscure et saturé des poussières de la matière qu'il remue désespérément, pelte, creuse en vain.
Les poumons cherchent
l'air. Les muscles brûlent. Il s'obstine. Anthony, pourtant encordé, s'enfonce à son tour. Raphaël et François s'emploient à le dégager. Raphaël, avec l'énergie du désespoir, le tire.
Au-delà de ses forces.
Son dos cède. 3 mois après, il n'a pas pu reprendre le boulot, malgré ses 4 séances de kiné hebdomadaires. Anthony est enseveli jusqu'aux épaules. Christophe lui lance une corde, reliée à un système de poulies qui démultiplie la force de traction. Il est arraché à grand-peine de l'inexorable succion qui l'entraînait. Les 3 gars sortent, hébétés, en état de choc.
Terrassés par l'épuisement.
Ils s'abattent dans un coin ombragé qui ne leur apporte pas une once de fraîcheur.
36 degrés à l'ombre.
Quentin s'était détaché. Cette phrase seule pourrait l'accabler. À sa place, j'aurais peut-être fait comme lui. Qui ne s'est jamais trouvé dans ces configurations de travail hallucinantes ne peut se permettre de porter un jugement. Celui qui les a vécues, pas davantage au demeurant. A posteriori, toutes les sentences, tous les commentaires, même empreints de la méconnaissance du contexte, se veulent chargés de bon sens, de bonne foi et de légitimité. Mais à ce moment précis qui a fait basculer sa vie et celle de ses proches, qui était à la place de Quentin ? Personne. Lorsque sur Facebook j'ai publié l'annonce du rassemblement organisé en hommage à Quentin, Thomas Brasseur écrit ce commentaire, assis au frais derrière son ordinateur. Donc l'idée, c'est d'aller manifester pacifiquement contre l'inconscience des ouvriers. Je ne comprends pas très bien. Thomas, c'est à l'attention des gens qui ne comprennent pas très bien que d'autres gens écrivent des bouquins. Pour éviter que ceux qui ne connaissent pas Quentin tranchent avec autant de légèreté dans le vif de son humanité, sa probité, sa mémoire.
Allô, monsieur Cellier ?
Oui.
Oui, bonjour, je suis Franck Després, je suis journaliste et je travaille sur le milieu des cordistes et les accidents qui ont eu lieu à Bazancourt.
Oui.
Je cherchais à vous joindre parce que j'aurais souhaité vous poser quelques questions au sujet de l'accident qui a eu lieu donc en juin 2017. Est-ce que ce serait possible ?
Non, absolument pas. Oui, j'ai aucune information à communiquer là-dessus.
Vous êtes toujours le patron de TH ? Qui employait Quentin Zahraoui-Brua à l'époque.
Non, mais je vais pas vous répondre là-dessus, quoi. Je suis désolé.
Je cherche juste à comprendre comment des cordistes pouvaient être envoyés en étant tous intérimaires, peu formés. Et...
Bonne journée, merci. Au revoir.
Réalisation Franck Després. Musique originale Maxime Simon. Son France Timmermans. À suivre.
Binge audio. Ah non, binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.